Chapitre 8. Le choix, comme nous l'avons dit, s'arrêta donc sur Marie de Médicis. Cependant, Henri hésitait encore. Sully, qui connaissait sa puissance sur son maître, se chargea de tout et signa avec Villeroy et Sillery le contrat de mariage. Puis, comme pendant cette opération, le roi l'avait deux fois demandé, il se rendit aux ordres du roi. « D'où diable viens-tu donc, Rony ?» lui dit le roi dès qu'il l'aperçut. « Ma foi, répondit Sully, de vous marier, sire. »« Ah ah !» fit Henri, « de me marier ?»« Oui, ainsi il n'y a plus à vous en dédire, le contrat est signé. » Henri fut une demi-heure à garder le silence, se grattant la tête et se rongeant les ongles. Enfin, il rompit le silence et frappant d'une main sur l'autre. « Eh bien, soit, dit-il, marions-nous, puisque pour le bien de mon peuple, il faut que je sois marié. Mais je crains bien de rencontrer une mauvaise tête qui me réduise à des contestations domestiques que je crains plus que tous les embarras réunis de la guerre et de la politique. » De quelle mauvaise tête parlait le roi? Était-ce d'Henriette de Balzac d'Entragues ou de Marie de Médicis? Dans l'un ou l'autre cas, il en fut fait comme voulait Sully. En effet, c'était presque toujours ainsi que les choses se passaient entre le ministre et le roi. Disons quelques mots de Sully, l'homme, après Henri IV, le plus populaire de son époque. C'est une excellence assez inconnue, et qu'il n'y a pas de mal à voir un peu aussi en robe de chambre. Nous profitons du moment où Henri IV se dispute avec sa maîtresse à propos de son mariage qu'elle vient d'apprendre pour nous occuper de son ministre. Vous devinez bien, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent se dire, tandis que vous ne devinez pas ce que je puis vous dire de Sully. Sully prétendait descendre de la maison des comtes de Béthune en Flandre, tandis que ses ennemis prétendaient qu'il descendait tout simplement d'un Écossais nommé Bétain. Ce fut au siège d'Amiens que commença en réalité sa grande fortune près du roi. Poussé par Gabriel Détré, il passa sur le corps de M. Harlay de Sancy, alors surintendant. Harlay de Sancy avait rendu de grands services à Henri IV et, entre autres, pour lui procurer des secours, il avait mis en gage, chez les Juifs de Metz, un très beau diamant, réuni aujourd'hui au diamant de la couronne, le Sancy. Mais un jour que Henri IV le consultait sur son mariage avec Gabriel Détré, « Ma foi, sire, avait-il répondu, catin pour catin, j'aime autant la fille de Henri II que celle de Madame Détré. » Henri IV avait très bien pardonné ce mot à Sancy, qu'il aimait et qu'il estimait. Mais Gabriel ne le lui pardonna point et poussa Sully à sa place. Sully faisait une cour fort assidue à Gabriel. Mais, une fois nommé surintendant, il tourna tout naturellement contre elle. Nous avons vu le chagrin qu'il ressentit de sa mort. Quant à Sancy, qui passait pour un aussi honnête homme que Sully pour grand pillard, il rentra dans la vie privée et mourut si pauvre des dettes qu'il avait contractées au service du roi que Henri rendit une ordonnance qui défendait à tout créancier de faire conduire Sancy à la prison et à tout huissier de l'y conduire. Le bonhomme ne marchait jamais sans son ordonnance qu'il portait sous son pourpoint dans un portefeuille retenu par une chaîne. Il lui arriva souvent d'être pris par les sergents. Il se laissait conduire jusqu'à la porte de la prison, puis, à la porte de la prison, montrait son ordonnance et fort était au sergent de le lâcher. Quand on lui demandait pourquoi il faisait cela, il répondait avec un rire moitié gai, moitié triste, « Je suis si pauvre que c'est la seule récréation que je puisse me donner. » Encore un mot sur M. de Sancy, sous le nom duquel apparut le divorce satirique de Daubigné, ou plutôt sur ses enfants, puis nous reviendrons à Sully et, après Sully, à Henri IV. M. de Sancy avait deux fils. L'un des deux était page de la chambre de Henri IV. Las de porter le flambeau à pied devant le roi, il trouva bon d'acheter une hackenée et de porter le flambeau à cheval. Le roi trouva le luxe un peu bien grand pour un page. Il s'informa, apprit que c'était le fils de Sancy et ordonna qu'en rentrant au Louvre, on lui donnât le fouet. Pendant tout le temps que dura l'exécution, le jeune homme jurait « par la mort ». Mais comme ils essayaient et qu'au lieu de dire « par la mort », il disait « pas la mort », le nom lui en resta et de ce jour, on ne l'appela plus que « pas la mort ». C'était un plaisant homme, dit Allemand des Réaux. Il trouva une fois Madame de Guéméné sur le chemin d'Orléans. Elle revenait à Paris, lui s'ennuyait d'être à cheval car il faisait mauvais temps. Il s'approcha du carrosse de Madame de Guéméné et le fit arrêter. « Ah, madame, dit-il, il y a des voleurs à la vallée de Torfou, et comme vous êtes seule, je m'offre à vous escorter. »« Je vous rends grâce, lui dit-elle, je n'ai pas peur. » »« Ah, madame, reprit Palamore, il ne sera pas dit que je vous ai abandonné dans le besoin. » Et, se disant, il baissa la portière, et, quoi qu'elle dît, se mit dans le carrosse, laissant son cheval suivre comme un chien. À Rome, un jour que Madame de Brissac, femme de l'ambassadeur, devait aller visiter la vigne des Médicis, il partit devant pour voir si rien n'y manquait. Une niche était vide, on avait emporté la statue la veille pour la réparer. « Ah, voilà qui fait mal !» dit-il. Et s'étant déshabillé et ayant caché ses habits dans un massif, il se mit dans la niche et prit la pose de l'Apollon pythien. À 50 ans, il se fit père de l'oratoire. On ne l'appelait que le père Palamore. Son nom de Sancy était complètement oublié. Sa conduite était irréprochable. Seulement, il n'avait dans sa chambre que des saints à cheval et portant l'épée, comme saint Maurice et saint Martin. L'autre fils de M. de Sancy, après avoir été ambassadeur à Constantinople, se fit aussi père de l'oratoire. Un jour, il passa par un couvent de carmélites fondé par son grand-père. Les religieuses ne lui firent pas plus d'honneur qu'à un homme à la famille duquel elle n'eussent eu aucune obligation. Il s'en plaignit. Un autre jour qu'il repassait, la supérieure voulut réparer sa faute. Mais il se trouvait justement que la clé de la grille était perdue. On fut une demi-heure à la retrouver, puis il y eut toutes sortes de cérémonies pour décider la supérieure à lever son voile. Enfin, elle le leva, et le moine vit un visage jaune comme un citron. « Peste soit de la béguine, dit-il, qui me fait attendre mon dîner une demi-heure et qui me montre une omelette. » Et il lui tourna le dos. Revenons à Sully. Son premier emploi avait été d'être contrôleur des passeports au siège d'Amiens. Fort ignorant en matière de finances, il s'adjoignit, à peine nommé surintendant, un certain Ange Capel, sieur de Luat, qui était en même temps auteur et qui, fidèle à son maître, chose rare, fit imprimer, lors de la disgrâce de Sully, un petit livre à sa louange intitulé « Le Confident ». De Luat fut arrêté et mis en prison à cause de ce livre. Arrivé devant le juge instructeur, celui-ci lui ayant dit « Promettez-vous de dire la vérité ?»« Peste, répondit-il, je m'en garderai bien. Je ne suis dans ce moment devant vous que pour l'avoir dite. » Tout surintendant des finances qu'il était, Sully n'avait point de carrosse et allait au Louvre en housse, comme on disait à cette époque, pour dire « à cheval ». Était-ce avarice? Était-ce parce que Henri IV, qui ne voulait pas que son page eût une hackenée, ne voulait pas que son ministre eût un carrosse? Le marquis de Coeuvre et le marquis de Rambouillet furent les premiers qui eurent des carrosses. Le dernier donnait pour raison sa mauvaise vue, l'autre une faiblesse dans le tendon d'Achille. Le roi grondait toujours à cause d'eux et il se cachait quand il se trouvait sur son chemin. Louis XIII avait la même répugnance à voir les seigneurs se donner ce luxe. Un jour, il rencontra M. de Fontenay-Mareuil en carrosse. « Comment un garçon a-t-il un carrosse » dit-il. « Il va se marier !» lui répondit-on. Ce n'était pas vrai. Du temps de Henri IV, à peine savait-on même ce que c'était que des chevaux marchant l'amble. Le roi seul avait une hackenée, on trottait derrière lui. Quand le roi fit M. de Sully surintendant, celui-ci fit ce que sont habitués de faire les rois de France quand on les appelle à la couronne. Il fit l'inventaire de ses biens qu'il donna au roi, jurant qu'il ne voulait vivre que de ses appointements et de l'épargne de sa terre de Rosny. Le roi, qui était gascon, rit beaucoup de la gasconnade. « Vraiment, dit-il, jusqu'ici j'avais hésité à décider si Sully était d'origine écossaise ou flamande. Décidément, il est écossais. « Pourquoi cela, sire ? Lui demanda-t-on. « Parce que les Écossais sont les Gascons du Nord. » C'est que Henri IV ne voyait que ce qu'il voulait voir, témoin le jour où M. de Praslin voulut lui montrer Bellegarde chez Gabriel. Sully ne lui en imposait donc pas avec sa prétendue rigidité. Un jour qu'il était au balcon, regardant venir Sully, Sully le salua et, en le saluant, faillit choir. « Oh, ne vous en étonnez pas !» dit le roi à ceux qui étaient près de lui. « Si le plus ivrogne de mes Suisses avait autant de pots de vin que lui dans la tête, il serait tombé de tout son long. »